faut juste un peu de prix. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait
bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Il pleut. Et heureusement d'ailleurs, on avait soif, la Terre avait soif, moi aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, la Pleine Lune est toujours dans vos oreilles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes-Femmes Radio Zone, notre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis. Dès 18h30, nous sommes là, nous prenons la relève de Remue Ménage. Le calme, la sérénité lunaire font place au dynamisme. Remue Ménage. Ondes-Femmes Radio Zone, Ondes-Femmes, c'est Radio Pleine Lune, Remue Ménage. Vous pouvez nous téléphoner au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Lyon. Vous pouvez aussi nous écrire à Ondes-Femmes Radio Zone, 7 boulevard Calvocte, 1205 Genève. Dans quelques instants, nos nouvelles.
Minutes, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir si les moins.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes-Femmes Radio Zone, nos nouvelles. Aux États-Unis, la guerre morale fait rage. L'avortement, un thème qui divise de plus en plus les Américains et qui met George Bush en difficulté. Depuis plus d'un mois, Wichita, une petite ville du Kansas au cœur de l'Amérique profonde, est le théâtre de scènes dramatiques organisées par Operation Rescue, un groupe qui combat l'avortement avec une conviction frisant l'hystérie. Des protestataires, parfois en transe, bloquent l'accès à trois cliniques qui pratiquent l'avortement, se jettent devant les voitures qui s'en approchent, se faufilent entre les pattes des chevaux de la police qui tentent de dégager l'entrée, brandissent des poupées sanglantes, traitent de meurtriers, ce qui est une insulte interdite dans certains États, le personnel médical et les patientes. Des patientes qui sont harcelées jusque dans leur chambre et qui se cachent la tête sous les draps tant elles craignent d'être reconnues et à nouveau prises à partie plus tard. La presse de tout le pays suit attentivement et avec passion cette affaire de Wichita. Jugement du New York Times, je cite, « Ils empêchent l'adolescente terrifiée, la mère indigente ou la femme qui pourrait mourir d'un accouchement d'exercer le droit légal que leur garantit la Cour suprême. » Fin de citation. Ce n'est pas la première fois qu'Operation Rescue envahit une communauté qui ne lui demandait rien et l'oblige à appeler la police fédérale à l'aide pour rétablir l'ordre et faire respecter le droit des citoyens et des citoyennes dans ce cas. Mais tandis que les autres groupes anti-avortement prient, marchent et protestent pacifiquement ou alors font ce qu'on appelle du lobbying auprès des élus, Operation Rescue, elle, croit obéir à une loi supérieure. Les cliniques ont déposé plainte devant une cour fédérale invoquant le Ku Klux Klan Act de 1871, créé pour empêcher le Klan de poursuivre les esclaves libérés au-delà des frontières d'un État. Un magistrat local, le juge Kelly, a même interdit le blocus des cliniques et le harcèlement des patientes, n'autorisant que des manifestations. Puis, comme Operation Rescue ignorait son ordre et malgré plus de presque 2000 interpellations, il a ordonné à la police de ne plus tolérer aucune infraction avertissant les récidivistes qu'ils seraient désormais passibles de prison. Les durs d'Operation Rescue ont alors décidé de se tourner vers Washington et le pouvoir fédéral par le biais d'un appel contre cet arrêt du juge Kelly devant le département de la justice. 3 jours plus tard, réponse du département qui annonce qu'il soutient l'appel de Operation Rescue car le Ku Klux Klan Act, invoqué aussi dans les années 60 pour protéger les défenseurs des droits civils, ne s'applique pas à la liberté de l'avortement. Point final, ce n'est pas un droit à défendre. Depuis ce moment-là, les rues de Wichita sont retournées à la violence. Assauts policiers autour de barricades, affrontements, arrestations ont repris de plus belle. Le juge Kelly, qui s'est déclaré écœuré par l'attitude de Washington, qui en fait légitime l'émeute, a lui-même été molesté et reçoit désormais des menaces de mort. L'attitude du juge Kelly, qui par ailleurs est catholique et personnellement contre l'avortement, mais qui a le courage d'affirmer que la loi passe avant son sentiment personnel à l'égard de l'avortement. C'est un grand contraste avec le département de la justice qui met en avant sa position anti-avortement tout en se faisant le champion d'extrémistes, observe toujours le New York Times. Du coup, voici le débat sur l'avortement hissé au devant de la scène politique. Le président du Parti démocrate affirme qu'il est inquiétant que le gouvernement Bush considère son point de vue comme étant au-dessus de la loi. Le président soutient la terreur au lieu du droit légal, note également la Ligue pour le droit à l'avortement. En aidant les émeutiers, renchérit le National Organization for Women, il démontre qu'il lutte contre l'avortement libre et cela à tout prix. La situation aux États-Unis de l'avortement est effectivement très conflictuelle, mais une bonne majorité des Américains, même parmi ceux qui sont personnellement opposés à l'avortement, se prononcent régulièrement en faveur du libre choix, et ce notamment lors des élections. Par exemple, le Congrès a voté pour renverser une décision de la Cour suprême qui donnait à Washington le droit d'interdire au centre de planning familial de faire savoir aux femmes venues les consulter que l'avortement était un choix tout à fait légal. George Bush lui-même avait menacé la loi d'un veto présidentiel et il affirme maintenant, sous la pression de beaucoup de personnalités républicaines, qu'il reverra sa position. De l'autre côté, le mouvement pro-life, pour la vie, donc opposé à l'avortement, a réussi à pousser nombre d'États à limiter cette liberté, surtout dans ce qu'on appelle la ceinture de la Bible, c'est-à-dire les États du Sud et du Midwest. À chaque fois, les défenseurs des droits civiques font appel à la Cour suprême, qui, avec sa nouvelle majorité conservatrice, tranche souvent en faveur des militants anti-avortement. États-Unis, spectaculaire affaire d'échange d'utérus où l'on voit une grand-mère vraiment trop maternelle. Une Américaine âgée de 42 ans est depuis 6 mois enceinte des 2 jumeaux obtenus par fécondation in vitro à partir d'ovules de sa fille et de spermatozoïdes de son gendre. Tout cela reste donc en famille. Cette nouvelle et spectaculaire affaire d'échange d'utérus soulève la délicate question de la légitimité de la pratique des mères porteuses. Ce conte de fées à la sauce procréation médicalement assistée a donc pour cadre une petite ville de l'État du Dakota. C'est là que Madame Schweitzer, 42 ans, documentaliste, a décidé de venir coûte que coûte en aide à sa fille de 22 ans qui ne peut pas avoir d'enfant puisqu'elle est née sans utérus. Tout cela grâce à l'aide, pour ne pas dire la complicité, d'un docteur du lieu, un endocrinologue spécialisé dans les problèmes de la reproduction, pour qui une telle demande ne posait aucun problème médical ni même éthique, et tout cela pour le coût de 7 000 $. Ce type d'échange du terrain n'est pas le premier à être rendu public. Il y a 4 ans déjà, un hebdomadaire anglais faisait savoir qu'une Sud-Africaine de 48 ans allait donner naissance à des triplés qui étaient ses propres petits-enfants. Et l'année suivante, un quotidien italien révélait qu'une jeune Romaine avait prêté son utérus à sa mère pour permettre à cette dernière d'avoir avec son second mari un enfant. Yeah. Une commission de la coordination des droits des enfants, soutenue par l'UNICEF, s'est rendue au Pérou, dans la province de Madre de Dios, pour enquêter sur la mort de dizaines d'enfants dont les cadavres ont été découverts à proximité des mines d'or de la région. Dans les 71 cimetières clandestins détectés, certains des cadavres de gosses de 12 à 16 ans présentaient des traces de balles. Selon un fonctionnaire, ces jeunes sont enrôlés de force dans les provinces montagneuses et une fois dans les mines, ils deviennent quasiment des esclaves, des propriétaires qui les empêchent de quitter la région. 6 à 7 000 personnes sont actuellement employées dans ces centres aurifères, dont une majorité des jeunes de moins de 18 ans. Toujours pour la question des enfants, à Sao Paulo, 312 enfants ont été assassinés. Quelques 312 enfants de rue ont été assassinés à Sao Paulo, au Brésil, au cours des 5 premiers mois de l'année, a indiqué hier la responsable du secrétariat à l'enfance, qui citait des données obtenues auprès de l'Institut médico-légal de la ville. La promulgation d'un statut de l'enfant et de l'adolescent à la fin 1990 n'a pas fait diminuer le nombre des morts violentes d'enfants à Sao Paulo. Une série de scandales touche de plein fouet l'Église catholique canadienne. Un récent sondage a révélé que 7% des Québécois et Québécoises auraient été victimes d'agressions sexuelles de la part de membres du clergé. L'affaire la plus grave met en cause la communauté des Christian Brothers. Ces religieux, chargés de l'éducation d'enfants défavorisés, avaient pris l'habitude de violer, de brutaliser leurs protégés. Plus de 500 témoignages, en tout émanant d'anciens élèves, relatent les sévices infligés dans les années 70 et 80 à des enfants de 7 à 17 ans. Un grand nombre d'élèves avaient alerté d'ailleurs la police à l'époque, mais on s'était arrangé pour étouffer l'affaire, les autorités se contentant d'exiger la radiation des frères fautifs. Actuellement, un procès est en cours qui implique 35 religieux. Ils sont inculpés d'avoir violenté 177 enfants et adolescents. En Suisse, une femme a été condamnée à 5 semaines de prison ferme et 2000 francs d'amende pour avoir participé à l'action de solidarité avec les Kurdes d'Obwald. La coordination Asile Suisse a protesté il y a deux semaines contre cette condamnation totalement disproportionnée. Cette condamnation est en outre contraire aux principes pénaux relatifs à l'aide en cas de détresse et à la loi fédérale sur le séjour des étrangers. Le fait de ne pas avoir assorti la condamnation du sursis est une véritable provocation, ajoute la coordination. La peine infligée à une femme pour avoir aidé des réfugiés est ainsi plus lourde que celle qui sanctionne les attaques racistes contre les demandeurs d'asile, relève la coordination. Le mari de cette femme, sculpteur officiel du 700e, a décidé, en l'honneur ou pour commémorer cet événement, de jeter sa sculpture à l'eau pour dénoncer la condamnation de sa femme. Ça se passera pendant le jeûne fédéral ce dimanche. Toujours en Suisse, l'Union syndicale veut une compensation pour la vie chère. Pour l'Union syndicale suisse, la question ne se pose pas. Les négociations salariales de l'automne devront déboucher sur la pleine compensation du renchérissement pour tous, avec un plus pour les bas salaires. Depuis le début de l'année, les salariés ont enregistré mois après mois une baisse de leur pouvoir d'achat. Par conséquent, la revendication de la compensation intégrale du renchérissement est légitime pour l'Union des syndicats suisses. Le renchérissement frappe particulièrement les bas salaires, d'autant plus que le calcul de l'indice sous-estime certains postes comme les loyers et les cotisations versées aux assurances. S'exprimant au nom de la FTMH, Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, Christiane Brunner a également rompu une lance en faveur des bas revenus. Elle a rappelé que selon une enquête de la FTMH, plus de 46% des salariés gagnent moins de 3500 francs par mois. Les femmes sont particulièrement touchées puisqu'elles près de 73% d'entre elles gagnent moins de 3000 francs et 37% d'entre elles moins de 2500 francs par mois. Les revendications de salaire formulées par les syndicats ont bien sûr reçu une fraîche réaction patronale. Ces revendications ne tiennent aucun compte des exigences actuelles de l'économie, a estimé l'Union centrale des associations patronales suisses. Pour l'UCAP, la sauvegarde à long terme de la place industrielle suisse doit passer avant les exigences salariales à court terme. (Musique) Suisse, l'emploi des femmes est en hausse. En l'espace de 20 ans, le pourcentage des femmes exerçant une activité professionnelle a augmenté de presque 5%. Dans le même temps, la proportion des hommes actifs a, lui, reculé. Si l'emploi des femmes augmente, leur salaire, lui, plafonne assez. Une étude sur le salaire des cadres suisses en 1991 montre que les femmes sont extrêmement pénalisées. En 1991, le revenu annuel brut moyen d'un cadre a augmenté. Il s'établit autour des 100 000 francs par an. Par contre, une grande disparité existe entre les sexes. Le revenu moyen de tous les cadres hommes s'inscrit autour de 108 000 francs 600. Leurs collègues féminines doivent, elles, se contenter de 79 000 francs, c'est-à-dire de 30 000 francs de moins en dessous de la moyenne générale. Scandale à Nyon, deux jeunes femmes étreignent le premier squat. Une villa de 4 étages située au centre-ville avec eau et électricité a donc été squattée par deux jeunes femmes qui en ont pris possession. Elles travaillent l'une à l'hôpital, l'autre dans une boutique de mode. Leur présence est tout sauf clandestine. Elles ont écrit à la fin du mois d'août au service des bâtiments de la commune pour proposer de payer les frais des services industriels en attendant, je cite, que les travaux que vous auriez éventuellement l'intention de faire débutent. La municipalité a pris acte du squat avec horreur. Et je cite sa réaction, « La municipalité n'a pu admettre votre occupation illicite des lieux. Ce faisant, un délai au samedi 7 septembre vous est accordé pour libérer le dit bâtiment. À défaut d'évacuation librement consentie, toutes dispositions seront prises pour une libération forcée. Le syndic est pour la première fois aux prises avec des squatteurs. Il s'exclame, « Vous admettriez que je m'installe chez vous confortablement et que je regarde la télévision ? C'est tout de même un peu raide, des choses pareilles. » Une pétition intitulée « Justice pour les femmes âgées » a été présentée la semaine dernière au Palais fédéral. Lancée en avril par le mouvement œcuménique des femmes de Zurich, la pétition comprend 15 000 signatures. Toujours une autre déclaration, c'est le cas des Femmes pour la paix qui, par la voix d'un communiqué de presse, le groupe Genevois Femmes pour la paix donne un écho à l'assemblée annuelle de l'association Femmes pour la paix suisse qui s'est tenue dernièrement au Jura. Et on a parlé énormément des liens étroits entre recherche génétique et armement biologique. En raison du vide juridique actuel, le groupement Genevois demande un arrêt de la recherche sur les armes biologiques. Les Femmes pour la paix estiment qu'une relation étroite existe entre la recherche civile et les armes biologiques. C'est pourquoi leur opposition aux armes biologiques se dirige également contre le développement, la production et la mise en liberté d'organismes génétiquement manipulés. À propos d'ailleurs de manipulation génétique, je ne sais pas si vous avez vu comme moi la campagne publicitaire lancée par Gen Suisse, qui est justement la boîte qui lance toutes ces recherches et ces nouveaux produits génétiquement manipulés. Elle est absolument magnifique, on pourra en reparler. Et puis pourquoi pas ne pas parler sport ? Eh bien oui, voilà, une nouvelle rubrique, le sport. Le sport a et l'islam un très difficile mariage. On a vu le triomphe d'Asiba Boulmerka en finale des 1500 mètres, ce qui est un arbre flamboyant qui cache le poids des interdits islamiques et la régression de la pratique sportive féminine en Algérie. La nouvelle championne, célébrée par l'ensemble des médias algériens, avait même dû en 85 quitter sa ville natale, réputée pour son traditionnalisme, pour poursuivre à Alger sa carrière d'athlète, loin de la pression sociale de la province et du camp d'Iraton. Il y a 2 ans, une centaine des 295 députés de l'actuelle Assemblée nationale ont présenté un amendement frappant d'interdit le sport féminin dans les établissements scolaires. Le texte n'a pas été voté, mais la menace reste puisque les parents peuvent faire dispenser leurs filles d'éducation physique sur simple présentation d'un certificat médical et les enseignants, souvent sensibles aux arguments islamiques, poussent à la roue et bien sûr les médecins aussi. L'éducation sportive physique qui était mixte est devenue séparée et les filles maintenant évoluent le plus souvent en survêtements ou en salle, à l'abri bien sûr des regards. L'une des premières mesures prises par les maîtres islamistes après la victoire du Front islamique du salut en juin 1990 a été d'ailleurs de réduire les subventions sportives. Toujours dans nos nouvelles sportives, une nouvelle discipline sportive vient d'apparaître et qu'on pourrait d'ailleurs inscrire au programme des prochains Jeux Olympiques. C'est le lancer du rouleau à pâtes. Et oui, une cinquantaine de femmes se sont affrontées dans le canton de Fribourg dans le lancer du rouleau à pâtes. Cet engin qui pèse 15 kilos a été expédié pour le record à 3,37 m. Et toujours à la rubrique sportive, une lectrice du Matin n'apprécie pas les commentaires sportifs autour de la nomination d'une femme comme présidente du football club de Mézières. Elle a écrit une lettre à ce journal que j'ai envie de vous lire. Je prends la liberté de réagir à un article que vous avez publié la première semaine du mois de juillet de cette année à propos de la nomination d'une présidente à la tête du FC Mézières, dans lequel votre journaliste souligne avec raison que l'un des bastions de la phallocratie est tombé. Fort bien, mais je pense qu'il reste du travail à faire dans ce domaine puisque je relève passablement d'éléments phallocrates encore présents dans cet article. Tout d'abord, il est parfaitement injuste de souligner que Madame de Blasio était la seule candidate en lice. Je suis bien placée pour savoir qu'il y avait deux autres candidats mâles qui se sont retirés lorsqu'ils ont su qu'une femme se présentait. Interrogés par la suite, ils ont également refusé d'être les vice-présidents d'une présidente. D'autre part, je considère qu'il est parfaitement pernicieux de souligner autant que vous l'avez fait le passé professionnel de Madame de Blasio dans la revue de Servion. Ce n'est un secret pour personne, toutefois, on n'insiste jamais de la même manière lorsque l'élu est un homme. Son activité récente n'est évoquée qu'en trois mots alors qu'elle exige une grande compétence et non moins de responsabilité. Ces propos me semblent propres à rabaisser le mérite d'une élue et donc indigne du travail d'un journaliste. Enfin, mettre cette élection sur le compte d'un feuilleton américain du type Miss Manager revient à nier les qualités propres de Madame de Blasio et surtout sa grande motivation pour une tâche somme toute ingrate. Il est évident que si chaque fois qu'une femme atteint un poste en vue, vous vous étonnez, cherchez 36 raisons saugrenues et ne laissez passer l'information qu'avec des références vexantes pour la personne, notre pays n'est pas prêt d'avoir dans le domaine du pouvoir partagé le même degré d'avancement que nos voisins. Signé René Guizan d'Yverdon. Et pour terminer, je vous propose aussi une nouvelle rubrique. J'ai intitulé cette rubrique « Nouvelle de l'absurde » ou alors « Nous vivons une époque formidable ». Si vous avez un autre titre, vous pouvez d'ailleurs, si vous avez une idée, vous pouvez me la communiquer. Voilà, ce sont des petites nouvelles que j'ai lues dans les journaux et qui m'ont rendue très très perplexe. Par exemple, en Allemagne, il y a un projet de construction d'un supermarché sur le territoire de l'ancien camp de concentration de Ravensbrück et de Sachsenhausen. Imaginez le malaise quand ils annonceront une grande vente de savon solde. Autre nouvelle, selon M. Shamir, premier ministre israélien, les Juifs ont eu raison de recourir au terrorisme, pas les Palestiniens. Le premier ministre israélien, Shamir, qui fut membre d'un groupe terroriste Stern, a estimé que le recours par les Juifs au terrorisme pour obtenir la création de l'État d'Israël était tout à fait justifié. L'organisation avait notamment, en 1944, assassiné un ministre résident britannique et un médiateur des Nations Unies. Étant donné les conditions d'alors, quand le peuple juif était sans voix, sans patrie et sans force militaire, vulnérable, abandonné du monde entier, il y avait une justification à recourir à ces méthodes extrêmes, a dit Shamir. Quant aux Palestiniens, a-t-il dit, leur objectif n'est pas juste. Ils se battent pour une terre qui n'est pas la leur. Autre petite nouvelle absurde. Le procès Noriega va bientôt s'ouvrir et ça promet des nouvelles croustillantes. On ne risque pas de s'ennuyer. On a déjà appris que le dirigeant panaméen avait fourni à l'Argentine, à la demande de la CIA, des missiles Exocet français au cours de la guerre des Malouines en 82, alors que Washington soutenait officiellement Londres dans ce conflit. La CIA cherchait à maintenir des bonnes relations avec les militaires argentins qui avaient accepté de s'occuper de l'entraînement des rebelles nicaraguayens. Autre nouvelle, une Américaine de 14 ans a été condamnée à prison à vie par un tribunal de Mississippi pour avoir fait assassiner son ancien amoureux par son nouveau petit ami. Au Soudan, deux personnes jugées coupables de vol ont été condamnées à Khartoum à l'amputation de la main. En Corée du Sud, le poète et militant d'extrême gauche Park Ki-pyeong a été condamné à la prison à vie par un tribunal de Séoul pour avoir formé un parti politique appelant à la lutte de classe. C'était notre rubrique Nouvelles de l'absurde. Bon, je termine quand même par une nouvelle plus drôle. Allons-y pour les machos et vive notre chapeau du cochon. Celui-là, nous l'avons donné au dirigeant de la compagnie aérienne thaïlandaise, le Thai Airways International, qui a décrété que dorénavant, son entreprise n'embaucherait plus que du personnel féminin très très joli, au physique avenant. Il n'embaucherait plus des femmes diplômées parce que, a-t-il dit, les femmes intelligentes ont tendance à ne pas être jolies. Et il est également à la tête de l'armée de l'air et ce militaire a précisé qu'il avait donné l'ordre au service du personnel de scruter les candidates à l'embauche comme pour un concours de beauté. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de la part du personnel, de personnes voyageant dans le Thaï, dans nos compagnies, qui critiquaient le manque de beauté de nos hôtesses qui sont trop âgées et ne sourient pas assez. C'était les nouvelles sur 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone.
Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев. Здравствуйте, прекрасная Раиса. У меня Нина, Нина Хаген. Über'n Tisch ziehen und zieh uns nicht über'n Tisch. Michael, Michael. Bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann. Und sei tapfer wie eine Frau. Sonst gab's Kanonen statt Butter. Jetzt gibt es Freiheit statt Butter. Mein lieber Gorbi, das macht mir Sorgi. Nix ist mit Freiheit ohne Butter. Ich will im Kien-Paradies drin. Die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will bloß Wahrheit, Brot und Tomaten. Prosen für Liebe und ein Soja. Michael, Michael.